Vous êtes sur RTL.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une, une page d'histoire qui se tourne en Algérie. L'ancien président Abdelaziz Bouteflika est mort cette nuit, il avait 84 ans. Les chasseurs dans la rue, plusieurs manifestations prévues ce samedi suite à l'interdiction de plusieurs techniques de chasse traditionnelles. Et puis qui sera le roi du Nord? Le RC Lens reçoit Lille cet après-midi en football. Un derby très attendu au stade Bollaert.
Un ancien homme fort de l'Algérie, à l'héritage très controversé, Abdelaziz Bouteflika est mort la nuit dernière, il avait 84 ans. Élu président pour la première fois en 1999, il est resté 20 ans au pouvoir. Et ce, malgré un AVC en 2013. Bouteflika avait finalement renoncé à sa réélection en 2019, sous la pression de l'armée et de la rue. C'était un personnage incontournable de la vie politique algérienne, qui a travaillé avec la plupart des présidents français de la 5e République. Brice Dugénie.
Oui, à peine sorti de la guerre d'Algérie, Abdelaziz Bouteflika devient, à 28 ans, le plus jeune ministre des Affaires étrangères au monde. Très vite, il pose ses yeux clairs et son regard perçant sur de nouvelles relations entre la France et l'Algérie.
Quand il y a un vainqueur et un vaincu, il y a toujours des conditions. Les conditions du vainqueur.
Le message est clair et sans concession. Tout au long de sa vie politique, de plus de 50 ans, dont 20 à la présidence, il ne cessera de mettre la France face à ses responsabilités coloniales, comme ici, en juin 2000, devant l'Assemblée nationale.
Le fait colonial, notamment, ne saurait être ignoré. Que vous sortiez des oubliettes du non-dit, la guerre d'Algérie. En la désignant par son nom, la colonisation porta l'aliénation de l'autochtone à ses limites extrêmes.
Mais dans cette relation souvent tumultueuse, l'ex-président algérien rappelle souvent ses liens forts avec la France et le président Chirac.
Peut-être que la langue française n'étant pas ma langue maternelle, je la manipule de façon insuffisamment compréhensible pour mes interlocuteurs, mais je dis très sincèrement ce que je pense du fond du cœur et avec un cœur immense, immense, immense et qui peut contenir toute la France, y compris bien entendu, mon ami le président Chirac.
Abdelaziz Bouteflika incarnait cette difficile reconstruction des relations entre Paris et Alger, surtout pour les acteurs de la guerre d'Algérie.
Brice Dugénie du service étranger de RTL.
L'autre grand titre, Alexandre, la crise diplomatique qui se prolonge entre la France, l'Australie et les États-Unis. Le Quai d'Orsay rappelle ses ambassadeurs à Paris.
La réaction était attendue tout juste 48 heures après l'annulation brutale du contrat du siècle. L'Australie avait commandé 12 sous-marins français pour un montant de 56 milliards d'euros avant de finalement choisir de faire affaire avec les Américains et les Britanniques. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a donc annoncé hier le rappel immédiat des deux ambassadeurs français aux États-Unis et en Australie, à la demande du président de la République. Karine Hauten, vous êtes la correspondante de RTL à New York. Cette décision française, elle est inédite.
Oui, car jamais la France n'a rappelé un ambassadeur des États-Unis. Et avec cette décision hier soir, tout le monde a bien pris la mesure de la colère de Paris. Du côté de Washington, toujours pas d'excuses pour ces manœuvres qui ont fait voler en éclats le méga contrat de sous-marins à livrer à Canberra. La Maison-Blanche a dit regretter la décision de l'Élysée, mais elle continue aussi à relativiser le mécontentement, la frustration de la France. Elle semble compter sur cette longue amitié pour enterrer l'affaire. Le porte-parole de la diplomatie américaine, lui, a déclaré un peu plus tard que Washington comprenait le rappel de l'ambassadeur français, mais qu'elle espérait pouvoir régler son différend avec Paris la semaine prochaine, lors de la grande réunion annuelle des pays à l'ONU.
Karine Hauten aux États-Unis pour RTL. Un avion d'Air France obligé de faire demi-tour juste après son décollage à Pékin ce matin après un incident technique. Selon la presse locale, une explosion aurait été entendue à l'arrière de la cabine. Une fumée noire se serait dégagée à l'intérieur de l'appareil. Aucun blessé. La compagnie aérienne assure que les passagers qui devaient rejoindre Paris seront réacheminés dès que possible.
À quelques mois de la présidentielle, les chasseurs dans la rue pour défendre leurs techniques traditionnelles.
Ils sont plusieurs milliers attendus cet après-midi à Mont-de-Marsan, à Amiens, à Fort-Calquier, à Caen ou encore à Redon. Objectif, protester contre la décision du Conseil d'État de rendre illégales plusieurs chasses traditionnelles qui visent en particulier les oiseaux. En quoi ça consiste concrètement? Exemple avec la chasse à la grive dans l'est de la France, Samuel Goldschmidt.
80 pratiquants dans 52 communes du nord des Ardennes du 15 septembre au 11 novembre dans certains bois et par temps de brouillard. La tenderie aux grives est une spécialité très particulière. Jean-Marie Martin préside l'association des tendeurs.
Oh ben, ça existe depuis 4 siècles. On prend deux crins de cheval, on les torsade et on en fait un nœud coulant. Et donc le crin de cheval parce que ça ne permet de ne prendre que des grives. Tous les oiseaux plus grands, ils cassent le crin.
Les piégeurs ont un quota de 5800 grives par saison, mais pour le président de la Ligue de protection des oiseaux du Grand Est, Étienne Clément, la faune est désormais trop fragile pour ce genre de chasse.
Les suivis qu'on mène régulièrement montrent que les effectifs sont en baisse et notre revendication générale, c'est d'arrêter la chasse de toutes ces espèces qui sont en mauvais état de conservation. Et puis, c'est un système qui n'est pas forcément sélectif, c'est-à-dire qui peut prendre au collet d'autres espèces qui, elles, ne doivent pas être chassées.
Tendrie, post-à-feu, chilet, cao, lec, tendelle, elles sont nombreuses, les chasses traditionnelles qui seront au cœur des controverses aujourd'hui.
Les explications de Samuel Goldschmidt pour RTL.
Restez bien là dans un instant, Alexandre de Saint-Igny en revient vous informer. Il est 8h07, la suite du journal et la chasse aux électeurs qui est ouverte pour Éric Zemmour à Toulon. À tout de suite.
RTL. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
À 8h08, bon réveil à vous tous. La suite du journal avec Alexandre de Saint-Aignan et Éric Zemmour. Pas encore candidat, mais déjà en meeting ou presque.
Il était à Toulon hier pour une conférence censée assurer la promotion de son dernier livre. Une rencontre et une séance de dédicace aux allures de campagne dans un auditorium de 800 places, William Galibert.
Oui, d'abord, en général, on ne chante pas la Marseillaise dans la file d'attente d'une rencontre littéraire. Les fans d'Éric Zemmour l'ont ensuite accueilli comme une rockstar. Une rockstar qui a repris tous ses plus grands classiques. Il cite le général de Gaulle, Bonaparte, dénonce l'invasion migratoire. Il répète que nous sommes dans une guerre de civilisation. On sent Éric Zemmour grisé par la foule. La présidentielle est dans toutes les têtes et peut-être surtout dans la sienne.
Il suffit qu'il y ait une rumeur sur ma candidature à l'élection pour voir tous les candidats parler comme moi. Faut dire qu'ils ont des gros sabots. Hein. Parfois, j'ai envie de mettre des guillemets quand ils parlent. J'avais dit non, ça c'est moi, mettez des guillemets.
Alors au micro, c'est l'ambiguïté qui demeure.
C'est à moi de choisir le moment, à moi de décider. Mon âme et conscience, c'est pas une décision facile, vous savez. On me menace, c'est une décision lourde. J'annoncerai, vous inquiétez pas, je le dirai.
Mais Éric Zemmour part ensuite en séance de dédicace où fleurissent les livres, mais aussi les affiches. Zemmour, président. Comme si pour ces inconditionnels, la question de sa candidature ne se posait déjà plus.
À Toulon pour RTL, William Galibert.
La campagne de vaccination s'essouffle, mais l'objectif, Alexandre, a finalement été franchi. 50 millions de Français primo-vaccinés.
C'est le président de la République, Emmanuel Macron, qui l'a annoncé hier soir sur les réseaux sociaux. La vaccination qui progresse, notamment chez les plus jeunes. Ça n'est pas vraiment grâce aux centres de vaccination installés dans les établissements scolaires depuis la rentrée. Bruno Bobkiewicz est le secrétaire général du SNPDEN, le proviseur de la cité scolaire Berlioz à Vincennes. Très peu de parents ont donné leur autorisation pour faire vacciner leurs enfants à l'école.
Il y a à ce stade peu d'adhésion des élèves et des familles sur la question de la vaccination, aux alentours des 2 à 5% dans les académies de métropole et plutôt 8% sur les dom-toms. Les familles ne reconnaissent pas la compétence médicale de l'école dans ce domaine. De toute évidence, en établissement, ça ne fonctionne pas autant qu'on l'aurait souhaité.
Des propos recueillis par Marie Guerrier pour RTL.
Le football et l'ambiance qui s'annonce bien chaude cet après-midi au stade Bollaert pour le duel entre Lens et Lille.
Un derby du Nord qui va se jouer à guichet fermé. Plus de 30 000 supporters Lens soit. Les Lillois, eux, seront beaucoup moins nombreux et surtout sous bonne escorte. Une 112e confrontation attendue, toujours avec la même impatience, Franck Hanson.
Ils ont déjà pu s'échauffer cette semaine lors de l'entraînement au stade Bollaert. Plus motivés que jamais, les supporters sans et or sont optimistes pour en finir avec cette série noire contre l'ennemi lillois. Derrière son comptoir, Muriel, une fidèle, est fière de retrouver ses Lensois au meilleur niveau.
C'est un derby, il faut le gagner. Ouais, la dynamique, elle est lensoise, mais enfin, ils sont champions de France. La dernière fois qu'on a gagné contre eux, c'est il y a 15 ans quoi. Cette année, c'est l'année ou jamais. Eux, c'est peut-être des spectateurs. Nous, on est des supporters quoi. Nous, on vit notre passion, on vit foot. Ils ont envie et ils mouillent le maillot. Allez, 4-2 pour Lens.
Rivalité historique entre mineurs du Pas-de-Calais et bourgeois lillois. Dans ce derby, seule une poignée de supporters du LOSC vont pouvoir faire le déplacement, comme Sylvain et ses amis du Chagnon.
La suprématie régionale est le plus important. Il faut montrer qui est le patron.
Aujourd'hui, on doit prouver qu'on est les leaders du Nord, tout simplement, enfin du Nord-Pas-de-Calais.
On a la chance de pouvoir enfin assister à un vrai derby dans un stade et non pas devant notre télé comme l'an dernier. On va en profiter.
L'an dernier, Lille s'est imposé 7-0 sur les deux matchs, mais les compteurs sont remis à zéro.
7-0, Franck Hanson pour RTL Lens contre Lille, coup d'envoi à 17h et puis votre soirée football sur RTL entre 20h et 23h, RTL Foot avec le match entre Saint-Étienne et Bordeaux.